traverse sur le 106.6 de Radio Campus jusqu'à 14h. Homme de théâtre et poète, Philippe Asselin dirige à Valenciennes l'espace Pasolini, où recherche et création font de projets artistiques. C'est un apôtre de la transdisciplinarité et collectionneur de gongs. D'ailleurs, il en joue, nous venons d'en écouter un extrait. Lobsang Chonzor est musicien tibétain et artiste associé à l'espace Pasolini. Il s'appuie sur les musiques traditionnelles tibétaines qu'il étudie en Inde pour nourrir son langage musical. Alors, Lobsang Chonzor, comment s'est faite la rencontre avec Philippe Asselin? Parce que ce n'était pas imaginable, finalement, pendant de nombreuses années.
En fait, Philippe est venu en Inde pour chercher un artiste tibétain, tout ça. Donc, à l'époque, j'étais jeune et je rencontrais Philippe comme ça, en parlant. Et après, j'ai compris pas mal de choses, pourquoi lui, elle était là, tout ça. Donc, Philippe, elle sentait quelque chose entre nous. Voilà, donc, il m'a proposé de venir. À l'époque, Philippe pensait que je suis musicien, c'est tout, la danseur. Mais à un moment, quand j'ai chanté la chanson Opéra, Philippe, il est surpris. Donc, à partir de ce moment, on est parti très très loin. Donc, aujourd'hui, on est arrivé dans l'endroit qu'on peut travailler ensemble, rester dans la tradition tibétaine et aussi un petit peu dans cette mode de travail, de l'autre chose de travail, en fait.
Oui, donc c'est tout simple. Philippe Asselin est allé en Inde pour vous trouver.
Ouais.
Je me demandais comment vos chemins s'étaient croisés. Alors vous, ça fait longtemps, Philippe Asselin, que vous vous intéressez aux arts du monde, le théâtre, la danse, la musique. Ça date pas d'hier.
Oui. Très, très tôt, j'ai cru comprendre que c'était ces gens-là, les artistes, ceux qui créent, ceux qui veulent autre chose et qui n'attendent pas que les autres le fassent pour eux, mais le créent, qui pourraient répondre à ma soif de connaissance, à ma soif de connaissance surtout de moi-même, d'identité. En fait, c'est l'art, les artistes, les créateurs, ça m'a permis de créer mon identité.
C'est intéressant, ça, on se retrouve dans l'identité, mais comme vous n'aviez pas d'exil physique, vous avez cherché dans votre exil intérieur.
Oui, j'ai eu d'autres exils, oui, beaucoup.
Effectivement. Alors, dans quelles circonstances vous êtes tombé amoureux des gongs et vous êtes devenu collectionneur?
C'est une très longue histoire. Il y a 30, plus de 35 ans maintenant, j'ai participé à un collectif de création musicale. D'ailleurs, j'étais venu ici très longtemps, qui avait pour nom MU, MU, non le continent perdu, mais plutôt le mouvement, l'idée de mouvement. À l'époque, c'était ce qui dirigeait nos vies à tous. Et dans cette activité d'improvisation avec deux musiciens, j'ai découvert les percussions. Parce que je n'étais absolument pas musicien, j'étais poète crieur. Et les percussions m'ont vraiment habité totalement. Et puis j'ai complètement oublié quand j'ai arrêté cette activité avec ces deux musiciens. Et j'ai fait du théâtre pendant 30 ans. Et puis c'est lors de la mort d'un de ces deux musiciens, justement, que nous avons repris avec celui qui restait, le collectif MU, en hommage à Michel Dutouquet, qui nous avait quittés. Et j'ai retrouvé, donc en fait, 30 ans plus tard, comme si c'était la veille, ces percussions qui étaient toutes poussiéreuses, qui avaient passé beaucoup de temps dans des hangars, des garages, enfin bon, puisque le collectif n'existait plus. Et de là, et parce qu'on nous a prêté des gongs, puisqu'à l'époque on n'avait pas évidemment d'argent pour se payer ce genre d'objet qui coûte très très cher, j'ai pu m'apercevoir à quel point c'était essentiel pour moi. Et voilà comment a commencé il y a 2 ans cette aventure prodigieuse avec les gongs.
Mais qu'est-ce qui vous fascine dans le gong?
Alors là, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, j'y trouve une réponse et j'y trouve aussi une question et un appel. Le gong, pour moi, c'est le moyen de dire que je suis là parce que je n'en suis jamais sûr. Et de parler à ceux qui m'ont manqué. Et de parler à ceux qui me composent. Hein, je dirais donc à la fois l'absence et le gong, quand il n'est pas joué, est une fantastique absence par sa présence, bon, car il est muet, et une présence très très forte dès que l'action démarre, hein, dès que le coup est donné, le gong se met à être un monde qui est sans doute le miroir, en tout cas je le vis comme ça, de mon monde intérieur.
Et vous, Lobsang Chonzor, ça représente quoi le gong pour vous?
En fait, quand j'étais petit, c'était toujours lié avec la religion. Et quand je suis venu en France, après je regardais Philippe, après je comprends aussi qu'on peut l'utiliser dans la toute méditation, pas mal de choses. Mais avec Philippe, quand on est le jour, c'était vraiment découvert le gong, en fait. Différentes tailles, différentes manières de jouer. C'est pas seulement flapper comme ça, comme habitué, mais vraiment flapper dans l'autre manière. Pour moi, c'est lié avec les gens, mais aussi je peux dire que c'est l'autre chose aussi on peut faire.
Oui, parce que le gong a toujours eu une connotation asiatique et sacrée. Philippe Asselin, vous l'assumez complètement, cette dimension asiatique et sacrée?
Bien sûr que je l'assume, parce que c'est la réalité. Maintenant, ma manière de rencontrer les gongs n'a absolument rien à voir avec ça. Hein. C'est vraiment un geste complètement intime, personnel, mais évidemment que la réalité, c'est l'Asie et le sacré. Et ça, je ne le nierai pas.
Est-ce que ça a un rapport avec le gamelan de Bali, ce que vous faites?
Alors, je n'ai pas pour le moment de ce genre de gong, parce que d'abord c'est très difficile à trouver et c'est extrêmement cher. Mais je travaille surtout pour le moment avec des gongs chinois, des gongs tibétains et des gongs balinais.
Bon, alors cette collection de gongs, vous l'avez trouvée où? Vous ne l'avez pas trouvée dans votre grenier?
Non, ça je ne l'ai certainement pas. Non, je l'ai trouvé, j'ai rencontré une personne en Allemagne, à Cologne, qui s'appelle Michael et qui vend des gongs, qui a été un percussionniste extrêmement célèbre dans les années 70-80, et qui est devenu, qui a vécu en Chine pendant de nombreuses années, qui est marié avec une japonaise, pour qui l'Asie n'a, semble-t-il, pas beaucoup de secrets, et qui est donc vend des gongs. Je sais chez lui que j'ai pu, sur les conseils d'un de mes meilleurs amis, compositeur Casper Teplitz, que j'ai pu rencontrer vraiment les gongs, et c'est vrai qu'on est sûr dans cet endroit-là d'abord de la qualité. Hein. Faut savoir que Michael joue tous les gongs, et il y en a des centaines qui sont chez lui. Il les note, il les annote, il les connaît un par un. Et quand il vend un gong, quelque part, il s'arrache quelque chose de lui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est devenu la percussion, qui est lui-même une percussion, j'ai presque envie de dire. Et c'est une très grande chance pour moi. Bon, moi, je ne travaille pas avec lui directement quand j'y vais, parce que je pense que je ne lui plais pas beaucoup. Mais c'est sa fille qui reprend d'ailleurs actuellement le magasin, qui travaille avec moi, qui est quelqu'un de Anila, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Donc voilà comment j'ai trouvé. Maintenant, j'ai d'autres filières qui naissent. Une filière avec Bali qui est en train de naître, mais c'est très compliqué. Très compliqué, parce que certains gongs n'ont pas le droit de sortir, parce que les gongs qui arrivent ici sont pas les vrais, enfin bon, tout ça est complexe, hein. Faut savoir que c'est tout un commerce qui est derrière là.
On va rechercher la filière du gong.
non, mais c'est tout à fait ça, un peu bon, avec la Thaïlande, etc. Donc petit à petit, j'ai la chance de rencontrer de plus en plus de personnes, et dernièrement, Dirk Wouters, qui était un des très grand percussionniste des années 80 en Europe, qui est comme moi collectionneur, qui est tout aussi fou. Ben lui, il collectionne pas uniquement les gongs, il collectionne toutes les percussions, quelles qu'elles soient. Mais disons qu'avec lui, j'ai aussi appris beaucoup, et c'est quelqu'un que je vais maintenant rencontrer très souvent.
Très bien. Alors, Lobsang Chonzor, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une analogie entre le om des mantras bouddhistes et le son du gong?
Par rapport à ça, je peux dire que oui. Et précisément, je ne sais pas trop. Parce que toute la chaque fois.
On l'entend en tout cas.
Ouais.
c'est le principal finalement. Ouais. Parce que jouer du gong, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est une méditation sonore, c'est ouais. pas faire de la musique. D'ailleurs, vous dites, je ne fais pas de musique. Philippe Asselin dit, je ne fais pas de musique.
Tout à fait.
Et vous faites quoi d'ailleurs ?
Du son, hein, du son, de la vibration, hein, surtout de la vibration, et une rencontre avec des anti-instruments d'ailleurs, hein, car je crois que pour beaucoup de musiciens, même très, très musiciens, très connaisseurs, tous les gongs se valent, tous les gongs font le même son, ce qui est évidemment complètement faux. Enfin, là, je veux le dire très haut et très fort. Hein, ça n'a rien à voir. Chaque gong est totalement différent. Chaque gong est une sorte de reflet d'une âme. Donc, c'est pas de la musique, en effet, en ce qui me concerne.
Et en tout cas, vous avez appris en autodidacte à jouer de ces instruments.
Complètement. Totalement. Entièrement.
Ça veut dire que c'est possible.
Oui.
Et c'est ce que vous êtes aussi en train de dire après les spectacles, quand vous faites essayer le gong aux gens.
Oui, c'est vraiment une mission, hein, là je ne peux pas parler autrement, hein, que je me suis donné de faire découvrir à des enfants, à des personnes âgées, à des gens, à des êtres, les pouvoirs contenus dans ces êtres, je les appelle des êtres.
Oui, parce que le gong, ça parle aux dieux.
Ça parle au lieu, en tout cas, ça c'est sûr, et ça dit le lieu, et ça nous dit, hein, ça j'en suis persuadé, mais évidemment, je ne peux obliger personne à être d'accord avec moi, c'est pas la question. Mais en tout cas, le travail que je commence en particulier au niveau des enfants autistes et des gens atteints d'Alzheimer me touche énormément, et je crois que les gongs peuvent prendre là leur véritable place. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui serait lié, au fond, à une mémoire.
C'est une histoire de résonance intérieure.
Exactement.
Donc ça va chercher au-delà, par exemple pour la maladie d'Alzheimer, ça va dans le cerveau, dans des couches anciennes.
En tout cas, c'est ce que je commence, parce que je suis au tout début de cette action-là, c'est que ce travail que je commence avec énormément d'espoir.
Quelles sont vos influences artistiques ?
Alors, mon influence artistique principale, c'est Rimbaud. Enfin, ça a été vraiment la rencontre majeure de mon adolescence, hein, de ma préadolescence et de mon adolescence. Hein. Et les cloches chez Rimbaud, enfin, il n'en parle pas énormément, mais il y a un poème très célèbre où il en parle, hein, de clocher à clocher, je tendrai des cordes. Ça a été pour beaucoup. Autre chose qui m'a énormément influencé par rapport au gong, c'est toute la période moyenâgeuse. Hein, alors ça, c'était dans une sorte de mythologie enfantine, évidemment, hein, mais autour de Michelet, hein, autour de la sorcière de Michelet. Hein, c'est-à-dire, et j'ai écrit, quand j'avais 17-18 ans, plusieurs textes autour d'un sonnailleur, d'une sorte de Quasimodo, et je pense que c'est comme ça que je finirai. Je sonnaillerai.
L'Obsang Chonzor, justement, vos influences artistiques. Même question qu'à Philippe.
C'était en fait moi d'être artiste aujourd'hui, comme l'artiste tibétain. C'est difficile. Et dans le sens que je porte la parole de préserver ma culture. Et on sait très bien le problème par rapport à Chine et Tibet, tout ça. Donc je n'ai pas envie de parler de politique.
Non, c'est pas du tout ça que je vous demande d'ailleurs.
Donc voilà, quelque chose que je portais de faire. Donc voilà, c'est ma parole qui m'a donné cette idée de porter la parole, de préserver notre culture.
Mais c'est ça, c'est intégré en vous depuis votre naissance.
C'était transmis.
Et la question ne se pose pas en fait.
Comment
vous concevez et vous travaillez ensemble vos improvisations ?
C'est une rencontre humaine, hein, très forte avec l'Obsang. On s'est en effet rencontré à Kalimpong dans l'Inde du Nord. C'est presque plus l'Inde d'ailleurs, Kalimpong. Hein. C'est un tout petit bout de terre qui remonte vers le Tibet, en fait. Hein. C'est plus proche du Népal et du Tibet, en fait, que de l'Inde tel qu'on l'imagine, excusez-moi, tel qu'on l'imagine, je me mets à rêver d'Inde.
Oui, c'est ça, ils sont voyageurs. Et voilà, ils s'éloignent du micro de plus en plus, du coup, on entend.
Oui, tout à fait, excusez-moi. Et donc, ça a été une rencontre humaine très, très puissante. On est allé voir un lac sacré pour les Tibétains. Et puis, quand on est arrivé dans ce lac, près de ce lac, il y avait tellement de nuages qu'on ne voyait pas. Enfin, on voyait un peu l'eau, mais on ne voyait pas les magnifiques montagnes autour de ce lac. Bon, ça a été vraiment une aventure assez extraordinaire. Ouais. On n'est pas prêt d'oublier. Tout ça à dos de yak, enfin, pas longtemps, quelques centaines de
Effectivement,
mètres.
Effectivement, ça sent l'aventure.
En parlant tourisme, voilà, j'étais le parfait touriste. J'ai sauté sur le dos du yak, ce qui a bien fait rire l'Obsang. En plus, je ne suis pas léger et le yak souffrait beaucoup et je pense qu'il a regretté amèrement ce moment de sa vie de yak. Mais bon, toujours est-il que ça a d'abord été une rencontre humaine très très forte, hein, des centaines de kilomètres en voiture, enfin bon, tout ça. Et puis la découverte quand il est arrivé ici, parce que là-bas on n'a pas beaucoup pu travailler artistiquement, pour moi, ce qui est le grand talent, je dirais le talent absolu de l'Obsang, c'est le chant. Et j'ai été très heureux d'être d'une certaine manière un peu découvreur, bon, même si tu avais bien sûr déjà travaillé, mais un peu découvreur de ce talent. Et c'est, je pense, là que tout s'est joué, et c'était lors d'une animation avec des enfants. Donc tout ça se croise et tout ça est très cohérent.
Et donc finalement, maintenant, vous êtes fait l'un pour l'autre en termes de travail et tout ça, ça se passe à l'espace Pasolini dans le laboratoire.
Absolument.
Alors Gong s'est déjà créé, on en a entendu quelques extraits sonores et ça ne demande qu'à poursuivre sa route. Et Tibet Psalm sera créé du 22 au 24 mars 2012 à l'espace Pasolini, toujours à Valenciennes.
Exactement.
Un numéro de téléphone pour se renseigner, c'est le 03 27 32 23 00. On peut aller sur Internet, le site est fort bien fait. Et puis évidemment, on peut même vous contacter pour apprendre le gong ou en tout cas découvrir l'univers sonore de ces drôles d'instruments. Philippe Asselin et Lobsang Chonzor, merci.
Merci. Thank you.